Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il pourrait bien renverser la tendance. Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, accumule les soutiens à l'aube du Super Tuesday. Énorme élection pour l'investiture démocrate aux États-Unis aujourd'hui. 14 États doivent voter. Nous vous présenterons les forces en présence dans un instant.
Et puis nous irons ensuite en Israël, où Benjamin Netanyahou est donné en tête des législatives à 2 sièges de la majorité.
Le coronavirus se propage plus rapidement en Europe qu'en Chine à présent. C'est même à l'étranger que des ressortissants chinois ont attrapé le virus ces derniers jours. En France, 191 personnes ont été contaminées.
Une publicité de Greenpeace jugée trop politique par la régie de la SNCF et de la censure, vous comprendrez pourquoi. À 3 semaines et demie des élections.
Et puis après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Saïs se penchera ce matin sur ces communes où il n'y a aucun candidat pour les municipales. 14 États en un seul jour. Tous vont voter aujourd'hui pour les primaires démocrates aux États-Unis. Une investiture qui pourrait tourner en faveur de Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama a, oui, certes, loupé ses débuts au profit de Bernie Sanders, qui est plus à gauche. Mais il s'est imposé ce week-end en Caroline du Sud. Et Joe Biden vient même de recevoir le soutien de 3 anciens prétendants. De quoi relancer hier soir un meeting à Dallas, où se trouvait donc Joe Biden et se trouvait pour France Culture. Loïc Laurie.
Hello, Dallas. Il y a encore quelques jours, Joe Biden semblait fini. Distancé par Bernie Sanders, menacé par Michael Bloomberg, il a relancé la machine hier soir à Dallas face à des milliers de ses partisans.
Les amis, vous savez, il y a quelques jours, la presse, nos adversaires, assuraient que cette campagne était morte. Mais la Caroline du Sud avait quelque chose à dire à ce propos.
À ses côtés, l'adversaire d'hier, Amy Klobuchar, est venue le soutenir et égratigner sans le nommer Bernie Sanders. Le socialiste fait figure désormais d'ennemi commun, facteur de division pour le Parti démocrate.
Si on passe les 4 prochains mois à diviser notre pays, à se battre les uns les autres, nous passerons les 4 prochaines années à regarder Donald Trump déchirer notre pays.
Amy Klobuchar, mais aussi la surprise, Pete Buttigieg et l'ancienne étoile montante Beto O'Rourke qui a fait hier une apparition surprise.
Ce mardi 3 mars 2020, je vais déposer un bulletin pour Joe Biden.
Tous soutiennent Joe Biden qui apparaît désormais comme le candidat rassembleur. Pour l'ex-vice-président, l'horizon s'est bien éclairci au centre en attendant l'entrée en lice pour ce Super Tuesday déterminant du milliardaire Michael Bloomberg.
Car effectivement, Michael Bloomberg, ancien maire de New York, a tout misé sur ce Super Tuesday. Voici ce matin son portrait sur la côte Est avec ses supporters au micro de Grégory Phillips.
Il ne reste plus que quelques heures avant Super Tuesday, alors les volontaires jouent du téléphone pour convaincre les sympathisants démocrates d'aller voter pour Mike Bloomberg. Il a déjà travaillé sur le contrôle des armes, par exemple, dit l'une de ses bénévoles, Nancy. Et surtout, il a dirigé la plus grande ville du pays, New York, juste après sa plus grande tragédie, le 11 septembre. Je pense que s'il faut miser sur celui qui ira jusqu'au bout et l'emportera, c'est bien Bloomberg.
It is Mike Bloomberg.
Bloomberg, la 9e fortune mondiale estimée à 55 milliards de dollars, a déjà dépensé 400 millions rien qu'en publicité pour ce début de campagne. Chaque candidat à la Maison-Blanche doit lever des montants extraordinaires, explique son directeur politique pour la Californie du Nord, David Shea. La différence avec les autres, c'est que Mike fait ça avec son propre argent et il est prêt à dépenser énormément pour battre Trump. Alors ici, au QG d'Oakland, on veut oublier le premier débat démocrate auquel Bloomberg a participé, catastrophique, et aussi les accusations de sexisme à l'égard de plusieurs de ses employées féminines. En tout cas, la campagne ne manque pas d'argent. Dehors, devant le quartier général, on a fait venir un camion de restauration mexicaine qui distribue de la nourriture à tous les passants, des tacos Bloomberg 2020, gratuits évidemment, et financés par le milliardaire.
Voilà donc pour les principaux candidats à cette investiture et à ce Super Tuesday. Pour ce qui est des thèmes de campagne, de la couverture santé jusqu'aux armes à feu, retrouvez-les en détail dès maintenant sur notre site franceculture.fr. Et hier, nous évoquions ici même l'absence de thèmes de campagne en Israël après une campagne délétère. Eh bien, les législatives, les 3e en un an, ont tout de même abouti hier à un résultat plutôt clair. Le Premier ministre sortant est crédité avec ses alliés de droite de 59 sièges, la majorité absolue étant à 61 au Marwaman.
Le grand gagnant de ce scrutin, c'est sans aucun doute Benjamin Netanyahou, qui a réussi à renverser la tendance et à distancer ses rivaux. Le chef du Likoud est désormais le mieux placé pour former le prochain gouvernement. Netanyahou ne boudait pas son plaisir la nuit dernière au milieu de ses partisans.
C'est une immense nuit de victoire. Je me souviens de notre première victoire en 96, c'était une victoire historique. Mais ce soir, la victoire est encore plus grande, car c'est une victoire contre toute attente.
Après deux élections sans résultat et une triple inculpation, Benjamin Netanyahou s'impose comme l'homme fort du pays face à son principal adversaire, Benny Gantz, très déçu après ses premières estimations.
Je comprends et partage votre sentiment de déception et de douleur. Nous nous attendions à un autre résultat, mais nous devons garder la tête haute et attendre les résultats définitifs. Et nous n'oublions pas que dans deux semaines, Benjamin Netanyahou s'assiera sur le banc des accusés au tribunal.
Avec un taux de participation de 71%, les Israéliens se sont rendus très nombreux dans les bureaux de vote pour tenter de mettre fin à la crise politique la plus importante de l'histoire de leur pays.
C'était notre envoyé spécial Omar Ouaman en Israël.
8h06 sur France Culture, l'Union européenne relève le niveau de risque lié au coronavirus, Clara Lecoq-Réal.
Oui, car le nombre de personnes contaminées continue de grandir en Europe. Il y a plus de 2000 cas en Italie avec 52 morts, 157 personnes infectées en Allemagne, 191 en France. La France, où un troisième décès a été annoncé hier, il s'agit d'une femme âgée de 89 ans, déjà malade. L'épidémie s'accélère également aux États-Unis, jusqu'ici plutôt préservés. 4 personnes sont mortes hier dans l'État de Washington. Et cette contagion ne semble plus venir seulement de Chine. Le fil de l'histoire s'inverse même, puisque des ressortissants chinois sont arrivés d'Italie alors qu'ils étaient infectés. Dominique André.
Les 7 ressortissants chinois testés positifs sont rentrés la semaine dernière d'Italie où ils travaillaient dans un restaurant et dans le secteur agroalimentaire. Pourquoi sont-ils revenus en Chine? Demandent des internautes sur Sinablog, le plus grand portail de blog en Chine qui enregistre sur ce sujet 330 millions de vues. Les Italiens ne portent pas de masque, comme les Français d'ailleurs, critiquent plusieurs personnes. J'espère que tous les vols internationaux seront suspendus pour empêcher l'importation du virus, écrivent plusieurs personnes qui s'inquiète aussi de la proximité géographique avec la Corée du Sud. Le quotidien China Daily rappelle aujourd'hui que 5 autres personnes porteuses du virus sont déjà rentrées en Chine en provenance d'Iran et du Royaume-Uni. La peur de la recontamination est perceptible aussi avec l'histoire de cette femme libérée d'une prison du Roubaix. Elle a réussi à échapper à tous les contrôles pour arriver dans le centre de Pékin. Plusieurs responsables ont été limogés ou sanctionnés, y compris le chef de la résidence qui l'a laissé s'installer dans un appartement.
Je précise qu'actuellement en Chine, le nombre de contaminations est au plus bas depuis un mois et demi. Les Chinois qui s'inquiètent donc des nouveaux entrants et qui accusent notamment, nous venons de l'entendre, la France de ne pas prendre assez de précautions. Hier soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, s'est voulu rassurant. Il s'est notamment exprimé sur le matériel que l'on peut utiliser pour se protéger et pour protéger les autres.
Il y a des stocks stratégiques de masques chirurgicaux qui ont été, à la demande du ministre Olivier Véran, déstockés. Ces stocks arrivent dans les pharmacies d'officine, en priorité dans les départements les plus touchés. C'est le cas de l'Oise, du Morbihan, de la Savoie, de la Haute-Savoie, et ça sera le cas dans les 24 prochaines heures. Ensuite, d'ici la fin de la semaine, tous les départements recevront des masques chirurgicaux pour que les professionnels de santé puissent récupérer ces masques, d'une part pour en équiper une personne malade qui se présenterait et qui aurait des symptômes d'infection respiratoire, d'autre part pour se protéger. Et il est quand même admis que mettre un masque à un patient qui est symptomatique et qui potentiellement tousse et porter un masque constitue déjà 2 barrières physiques importantes. Là aussi, notamment pour les solutions d'eau alcoolique, on encourage nos concitoyens à être raisonnables. Je crois que certains ont fait des réserves considérables et ça entraîne des tensions sur les approvisionnements qui ne sont pas des ruptures, mais qui sont que ben, finalement, si tout le monde vient chercher des flacons en même temps, il n'y a plus de flacons disponibles. Il y a des outils d'alternative aux solutions d'eau alcoolique qui sont tout simplement le savon qui est extrêmement efficace. Déjà ça, c'est une barrière importante vis-à-vis du risque de transmission par les mains.
Des propos recueillis par Tara Schlegel. La mondialisation est-elle fragile face au coronavirus? Nous reprendrons la discussion avec nos invités après ce journal à partir de 8h20. Et pour se protéger aussi d'une éventuelle propagation à grande échelle, des établissements scolaires sont fermés. C'est le cas toujours dans l'Oise et dans le Morbihan sur décision préfectorale. Étrange ambiance donc, le jour où le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lance son questionnaire en ligne sur le métier d'enseignant. De quoi raviver les critiques après les grèves liées aux réformes des retraites et du baccalauréat, Kim Kasmi.
Calmer l'affront tout en remettant en question le métier d'enseignant, c'est l'objectif de ce questionnaire. Salaire, conditions de vie au travail, idées de pistes pour faire évoluer le métier de professeur, rien n'est laissé au hasard. Tout comme cette question qui peut paraître surprenante, en cas de problème, qui contacteriez-vous, votre hiérarchie ou votre syndicat? Car Jean-Michel Blanquer ne s'en cache pas, le métier d'enseignant est appelé à évoluer au XXIe siècle, avec des contreparties au vu des lourds investissements que va faire le ministère pour augmenter les salaires des jeunes professeurs afin de compenser les pertes liées à la réforme des retraites. Mais pour Françoise Popineau, secrétaire générale du SNUVP, ce questionnaire n'a pour but que de faire diversion face à la politique actuelle du gouvernement.
Là, on fait diversion, c'est évident, en interrogeant aujourd'hui les enseignants sur leur métier, sur leur salaire, sur ce qu'ils souhaiteraient, alors que jusqu'à maintenant, on les promène, on ne sait pas de combien sera faite la revalorisation, d'abord on ne sait pas si on en aura une, ni de combien elle sera faite, des contreparties, puisqu'il nous faudrait travailler durant les vacances pour pouvoir mériter une revalorisation que, nous le rappelons, les autres collègues des autres pays européens sont revalorisés, ont des salaires convenables, sans avoir besoin de contrepartie.
La synthèse du questionnaire sera rendue fin mars à Paris, lors de la conférence internationale sur l'éducation, voulue par Jean-Michel Blanquer, qui se tiendra à l'UNESCO.
Cela ne fait presque aucun doute. Les deux motions de censure seront rejetées ce soir à l'Assemblée nationale. Mais les oppositions de tous bords ont voulu marquer le coup. Et cela après la décision d'Édouard Philippe d'utiliser le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Deux motions de censure discutées donc à l'Assemblée aujourd'hui. Sachez que même au sein de la majorité, l'annonce a fait des mécontents puisqu'après un sénateur dimanche, deux députés ont quitté hier soir le groupe La République En Marche. Enfin, ce mardi, l'intersyndicale menée par la CGT et Force Ouvrière appelle à manifester contre cette réforme et l'utilisation du 49-3. L'actualité est donc forte en ce moment en France alors que débute officiellement la campagne pour les municipales. Avec le quotidien La Croix, France Culture s'est procuré un sondage d'IFOP qui sera publié dans la matinée tout à l'heure. Sondage pour l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes qui s'intéresse donc aux jeunes aux 18-25 ans face aux municipales. Outre l'abstention attendue, le directeur général adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi, souligne une rupture par rapport à la présidentielle et aux européennes. Il le dit au micro de Rosalie Lafarge.
On voyait qu'il y avait une sorte d'homogénéisation ou de dédifférenciation entre le vote d'un côté des jeunes et celui du grand public. De plus en plus, ils votaient pareil. Là, bon, on est sur du souhait de victoire, mais c'est intéressant de voir qu'alors que le grand public plébiscite dans les enquêtes locales le monde d'avant, les sortants, qu'ils soient socialistes, républicains, communistes, voire RN, là, on est sur des choses qui n'ont rien à voir. Un poste autre liste, on ne sait pas ce que c'est, qui atteint 30%. Les partis traditionnels sont extrêmement bas, hein, en gros 10% pour le PC, le PS et divers gauches, 7% pour les républicains, et surtout, En Marche, 6%. Ce n'est pas du vote, mais ça montre à quel point le vote des jeunes, s'il vote, et pour l'instant on est sur à peine un tiers, sera particulièrement éclaté, en dehors peut-être d'un survote Europe Écologie Les Verts, avec seulement 16%, beaucoup moins qu'aux élections européennes. Peut-être, l'enquête a été faite un mois avant le vote, peut-être une montée de l'enjeu environnemental dans les discours pourrait contribuer à un sursaut participatif des jeunes. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, mais c'est une hypothèse.
Nous reviendrons sur cette enquête sur France Culture avec notre invité dans le journal de midi et demi tout à l'heure. En pleine campagne électorale, par ailleurs, une publicité a été censurée car elle est jugée trop politique par la régie de la SNCF et de la RATP en Ile-de-France. Cette publicité vidéo émanait de l'ONG Greenpeace. Elle demandait au gouvernement d'agir pour l'environnement, Véronique Roberotte.
Il y a plusieurs déclinaisons. Il y a celle du glacier qui s'effrite par morceaux. Chaque morceau forme un mot, toujours le même, bla, bla, bla. Référence à l'inaction des décideurs politiques.
C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir.
Dans la bande-son du film publicitaire, on peut entendre trois présidents français parler de leur engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Campagne refusée par la régie publicitaire Média Transport. Elle gère les publicités à la RATP et la SNCF en Ile-de-France. Cette publicité ne respecte pas notre devoir de neutralité car elle pointe l'inaction des décideurs politiques, explique la directrice juridique de Média Transport, qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Incompréhensible pour Jean-François Julliard, directeur France de Greenpeace.
Nous, on n'a pas eu l'impression de faire une campagne qui soit très dure ou agressive. On a repris des propos des trois derniers chefs d'État pour mettre en avant leur inaction sur la lutte contre le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, alors qu'on ne cesse de clamer cette urgence climatique, on nous censure cette publicité. Donc c'est vrai que ça nous paraît extrêmement injuste, quoi. On voit tous les jours dans le métro, dans l'espace public, des publicités pour les SUV, des publicités pour le transport aérien qui ont un impact néfaste sur le climat. Et nous, quand on veut justement rappeler l'importance de lutter contre le dérèglement climatique, on nous empêche de le faire au nom de dispositions qui empêcheraient d'avoir une interpellation des responsables politiques.
Même refus pour la diffusion du film de la campagne dans les salles de cinéma. Le message politique embarrasse, seulement en région parisienne, puisque la campagne de publicité de Greenpeace sera visible ailleurs en France, sur les réseaux sociaux aussi. Greenpeace y veillera.
Attention au vent violent sur le sud-ouest ce mardi, à l'aube d'une journée encore pluvieuse près de l'Atlantique. Ailleurs, les éclaircies seront nombreuses, avec 4 degrés ce matin à Besançon, 5 à Paris et Lille, 7 degrés à La Rochelle, 12 à Nice.